Bonjour tout le monde, content de vous retrouver après le week-end dernier où j'étais à un camp. Content d'être de retour parmi cette famille spirituelle. On va prier et puis on va ouvrir la Bible ensemble. Père Céleste, nous te remercions parce que Jésus est effectivement celui sur lequel nous nous reposons ce matin. Il est notre sauveur. Il est celui qui s'est donné pour nous à la croix. Merci pour lui. Il ne faut rien d'autre pour que nous soyons à toi, que nous soyons sauvés, que nous soyons heureux. Et nous te remercions, Seigneur, que tu as tout fait. Et ce matin, nous te prions que tu puisses nous orienter dans nos pensées, dans nos réflexions, à te suivre, à faire ta volonté, et repartir d'ici motivé, aidé, consolé par ta bonne nouvelle, l'Évangile. Au nom de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Il y a des choses qui deviennent obsolètes, inutiles, n'est-ce pas ? Parfois, de très bonnes choses deviennent finalement obsolètes. Il y a peut-être une quinzaine d'années, je lisais un article en ligne qui me prévenait qu'il y avait certaines inventions qui seraient bientôt superflues. Et à ce moment-là, c'était des inventions assez récentes et j'avais un peu de mal à imaginer que cela serait le cas. Par exemple, un appareil photo. Appareil photo, pas avec les films, pas les vieux, mais les appareils photo numériques. J'avais du mal à imaginer que ça allait devenir obsolète. Un lecteur MP3. Fini les anciens jours des CD et des cassettes. Mais le lecteur MP3 était encore assez moderne. On disait, mais ça ne va plus servir à rien. On n'en aura plus besoin, les lecteurs MP3. Obsolète. Et puis le GPS. Tout le monde se souvient du GPS, n'est-ce pas ? Le petit écran qu'on collait au pare-brise et on branchait dans l'allume-cigare, ben c'était quand même utile d'avoir un GPS. Mais cela aussi était dans l'article. Cela va bientôt être complètement obsolète. On n'aura plus besoin d'avoir dans son manteau, dans son sac, un GPS, un appareil photo, un lecteur MP3 et autre chose. Tout ce qu'on aurait, ce serait sur le smartphone. Mais peut-être qu'on peut avoir peur que nous allons bientôt être obsolète, que l'intelligence artificielle va remplacer notre travail. Il y a un an, Eleonore et moi, nous étions dans un restaurant en Flandre et un robot nous a servi à table. Le robot est arrivé avec nos plats. On se dit, mais c'est très bien ça. Mais plus besoin du serveur, plus besoin de la serveuse. Je suis bien convaincu qu'un pasteur peut être remplacé par une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle peut trouver les textes bibliques, les regrouper sur un thème, faire la synthèse beaucoup plus facilement que moi de ce que différents commentateurs ont écrit sur ce thème, et puis apporter quelques leçons morales. Mais ce qui manquerait, c'est le sentiment que ce pasteur artificiel a été sauvé par la même grâce que nous, et qu'il connaît notre vie et qu'il s'intéresse à ce que nous vivons. Donc je pense que je vais continuer à travailler jusqu'en 2046, comme c'est prévu. Mais j'aimerais évoquer aujourd'hui quelque chose d'autre que nous risquons de penser être obsolète. Je veux parler de la loi de Moïse, la loi de Dieu de l'Ancien Testament, tout ce qui a été révélé avant la venue de Jésus-Christ dans notre monde. Et on va voir un peu ce que Jésus a apporté comme changement par rapport à cela. La semaine passée, nous évoquons le pardon de Jésus, et c'est bien dans cette période d'après Pâques de réfléchir à ce que Jésus a accompli, ce pardon riche et généreux qu'il accorde à ceux qui ne le méritent pas, ceux qui sont endettés envers Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais évoquer un autre sujet qui, en fait, n'est pas souvent au centre de nos préoccupations, on ne réfléchit pas souvent à cela, Jésus et la loi. Quel est le rapport entre Jésus et la loi ? Alors je vous demande d'allumer votre smartphone et d'ouvrir votre Bible, Matthieu 5, et c'est là où on va être ce matin, Matthieu 5, 17 à 20. Jésus est en train de prêcher, prédication bien connue, et il dit ceci. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce texte provoque plusieurs questions chez nous, devrait provoquer plusieurs questions chez nous. Principalement, comment Jésus peut-il dire qu'il ne vient pas abolir la loi ? Quel est cet accomplissement ? Il dit « je ne viens pas abolir, mais accomplir ». Quel est cet accomplissement qui n'abolit pas ? Et en fait, il y a diverses réponses qui ont été données par les chrétiens. D'une part, il y a ceux qui disent « en Jésus, nous ne sommes plus sous la loi ». La loi n'a rien à dire aux chrétiens. Cela, on l'appelle l'antinomisme. L'antinomisme contre la loi. La loi est annulée. Ça, c'est une tendance. Mais une autre tendance, elle va être affichée, l'autre tendance, à gauche, est de nous devons vivre sous la loi. C'est la loi de Dieu qui nous montre comment être comme Christ. Et donc, non seulement il y a la loi de Dieu, mais des règles sont ajoutées, des instructions en plus pour nous aider à accomplir la loi. Et cela, la tendance vers le légalisme. Et en fait, il y a cette échelle de position, on ne peut pas dire qu'on est nécessairement l'un ou l'autre, mais chacun de nous, on se trouve quelque part sur cette gamme d'échelle entre l'antinomisme d'une part et le légalisme d'autre part. Et juste pour préciser, le légalisme ne signifie pas seulement le salut par les œuvres, mais c'est aussi cette tendance à insister sur des lois et des règles pour plaire à Dieu. Et les deux extrêmes existent encore aujourd'hui dans le milieu chrétien. Pourtant, Jésus n'était pas légaliste. Ce qu'il apportait était tellement radical, tellement en opposition à tout ce qui était pratiqué, que certains pensaient que lui était antinomiste. Mais il ne l'était pas non plus. Il n'était pas non plus. Et c'est ce qu'il vient expliquer ici. En quelque sorte, il n'est pas légaliste, il n'est pas antinomiste. Mais qu'est-ce qu'il fait ? On va voir trois aspects principaux de l'œuvre de Jésus à travers ces versets. D'abord, Jésus accomplit la loi. Il accomplit la loi. La loi de Moïse régissait en fait toute la vie des croyants juifs. Depuis sa naissance, sa nourriture, le rythme de sa semaine, la façon dont il s'habillait, les sacrifices qu'il offrait chaque année, amenant par exemple un mouton, une brebis à Pâques, mais aussi le fait de parler sans mensonge, de ne pas voler, de ne pas commettre de meurtre, et surtout d'honorer Dieu. Tout cela fait partie de ce que le juif croyant devait faire. Et Jésus a accompli cela parfaitement. Pour être plus clair, il n'est pas venu en disant « Ah, moi, je suis exonéré de la loi. Je ne vais pas suivre toutes ces vieilles règles. » Au contraire, il a reconnu la loi de Dieu comme étant valable et il a obéi à tout ce que la loi demandait du croyant fidèle. À chaque instant, à chaque année de sa vie, il a obéi pleinement à la loi de Dieu. Un exemple de cela au chapitre 3 de Matthieu, chapitre 3, verset 15, lorsqu'il vient pour être baptisé, et Jean-Baptiste est un peu surpris par la chose, Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Voilà ce que Jésus faisait. Il accomplissait tout ce qui est juste. La loi, évidemment, servait aussi à révéler le caractère de Dieu. Sa sainteté, sa bonté est exprimée par les lois qu'il a données. Un exemple de cela, c'est si vous allez en vacances, vous logez par exemple dans une villa, une maison de vacances, et en arrivant, le propriétaire n'est pas là, mais il a laissé quelques instructions sur la table, un petit mot d'accueil avec quelques instructions, quelques règles pour le logement où vous allez rester. Et qu'est-ce qu'il dit ? Le propriétaire aime l'ordre et il demande qu'à la fin de votre séjour, vous laissiez les choses dans l'ordre. Il habite juste à côté de là où vous allez loger et il demande que vous ne fassiez pas de bruit entre 23h et 7h. Il aime le jardinage, alors attention aux plantes pendant que vous êtes là. Et en lisant les règles, vous apprenez à connaître le propriétaire, même si vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas rencontré. Vous voyez, les règles révèlent le caractère de celui qui donne ces règles. Pourquoi Dieu interdit-il le mensonge et le meurtre ? Parce qu'il aime la vérité, parce qu'il aime la vie. Pourquoi y a-t-il le sabbat ? Parce que Dieu veut qu'on puisse reconnaître nos limites et ne pas travailler tout le temps. Mais Dieu aime l'humanité et il veut nous donner le repos. Voilà donc, à travers les lois, même les 10 commandements, nous voyons Dieu, nous voyons le caractère de Dieu et qui il est. Les lois sont bonnes parce que Dieu est bon et il veut notre bien. Et donc Dieu n'a pas annulé la loi de l'Ancien Testament, il a montré que les racines de cette loi se trouvaient en son caractère. Il y a certains aspects provisoires de la loi, comme par exemple le fait de ne pas manger certains aliments, sont expliqués dans le Nouveau Testament. Et Jésus et les apôtres vont montrer que cela n'est plus d'application pour nous. D'ailleurs, c'est comme ça que nous devons procéder. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous ne devons pas directement penser que c'est pour nous. Nous devons d'abord passer par le Nouveau Testament, voyant à travers le Nouveau Testament qui accomplit l'accomplissement, qui contient l'accomplissement, comment ces choses sont modifiées et comment notre conduite doit être dictée par le Nouveau Testament. En Matthieu 5, verset 16, on a un exemple de cela. Matthieu 5, verset 16. Jésus dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. En fait, la loi faisait cela dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la loi était la lumière qui montrait le bon caractère de Dieu pour que Dieu soit glorifié. Maintenant, c'est l'Église qui va faire cela à travers notre obéissance au Seigneur. Donc on comprend que la loi n'est pas inutile. Elle nous aide à savoir encore aujourd'hui comment est Dieu, quel type de Dieu nous adorons. Et la loi morale est une révélation du caractère de Dieu. Et cela est parfait. Mais après, bien entendu, il y a eu la révélation du caractère de Dieu par Jésus. Et Jésus, non seulement a accompli la loi par son obéissance, mais il a accompli la loi par sa révélation. En lui, nous voyons comment est vraiment Dieu. La révélation pleine et finale n'est pas les 10 commandements, mais c'est la personne de Dieu en son Fils. Deuxième aspect, c'est que Jésus accomplit les prophètes, les prophéties. Cette déclaration de Jésus a encore plus de sens quand nous considérons qu'il ne parle pas seulement de la loi, mais des prophètes. Regardez verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Il est l'événement. En lisant les Écritures dès la Genèse, nous nous accoutumons à certains modèles, n'est-ce pas ? Nous voyons comment est, par exemple, Abraham. Et puis nous voyons comment est Moïse, et puis nous voyons comment est David. C'est impossible pour nous aujourd'hui de lire l'Ancien Testament sans penser évidemment à ce qui s'est passé après. On ne peut pas oublier le Nouveau Testament, mais si on avait juste lu l'Ancien Testament, et pas encore le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on aurait ? On serait surpris si Jésus était grec ou romain, s'il est né à Rome ou à Athènes, et puis qu'il débarque là dans la planète, même s'il avait les qualités de Dieu, même s'il faisait des miracles, on se dit, mais ça ne va pas avec l'Ancien Testament. Il y a quelque chose qui est dissonant, c'est différent de ce qu'on attendait. On se dirait, où est l'accomplissement des prophéties, n'est-ce pas ? S'il était carrément ailleurs et d'une autre lignée. Nous attendons un fils d'Abraham. En lisant l'Ancien Testament, nous attendons un fils de David qui va venir. Quelqu'un de la lignée de Jacob, quelqu'un de la lignée de David. Et c'est exactement ce que Matthieu nous présente. Dès le début de son évangile, au chapitre 1, verset 1, il dit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Vous avez une attente pour un fils d'Abraham ? Eh bien, le voici. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas, etc., etc. Et puis Jésus est né, verset 16. Quelqu'un est venu qui est de la descendance d'Abraham, afin de bénir les nations comme Dieu l'avait promis. Jésus va être cette source de bénédiction. Il va surpasser David par son règne, sa victoire sur la mort. Et au-delà de cela, il est Dieu avec nous. 1:23, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, comme Ésaïe l'avait annoncé. Plus loin, nous allons voir comment il accomplit encore plus de prophéties, parce que au chapitre 2, il va être comme Joseph en Égypte. Et il va sortir de l'Égypte, tout comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Chapitre 2, verset 15, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Au chapitre 4, nous voyons Jésus qui accomplit le modèle de l'Ancien Testament parce qu'il est tenté dans le désert. Et ça nous fait penser au livre de Nombres, le peuple d'Israël tenté, éprouvé dans le désert. Mais Jésus réussit là où Israël a échoué. Il cite la loi. Et trois fois, il va citer Deutéronome lorsqu'il est tenté pour résister à la tentation, respecter la loi de Dieu. Et puis quand il prêche, au chapitre 4, verset 16, « Il est celui qui prêche la lumière dans les ténèbres, la lumière annoncée par Ésaïe le prophète. » Chapitre 4, verset 16 de Matthieu, « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Vous voyez comment Jésus a accompli les prophéties. Et c'est vraiment quelque chose de formidable à voir, toute sa richesse, dans toute sa couleur, comment Jésus a accompli ces prophéties de l'Ancien Testament. Et donc l'Ancien Testament n'est pas abandonné. Les modèles sont accomplis. Et au lieu de dire que ces prophéties sont maintenant obsolètes, on devrait dire qu'elles sont validées par le fait qu'elles sont accomplies en Jésus. Vous voyez ? Alors évidemment, si vous commencez à lire la Bible, je vous recommande de lire peut-être d'abord un évangile ou la lettre aux Romains pour expliquer un peu le plan du salut. Mais en tant que chrétiens, si nous sommes un peu plus avancés dans notre foi, nous ne devons pas négliger l'Ancien Testament, la lecture des prophètes. Parce que Jésus dit au chapitre 5 que nous avons lu, au verset 18, « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre, ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Il annonce que le ciel et la terre disparaîtront. Ce sera la fin du monde. Mais l'Écriture s'accomplira, ce sera la fin de l'histoire. Et déjà dans l'Ancien Testament, ces choses sont annoncées. Et bien sûr, beaucoup ont été déjà accomplis en Jésus-Christ, mais d'autres seront accomplis à la fin des temps. Nous avons besoin d'avoir et de connaître les paroles des prophètes, n'est-ce pas ? Jusque-là, nous avons vu que Jésus accomplit la loi, que Jésus accomplit les prophètes, les prophéties. Et puis, le troisième aspect, c'est que Jésus accomplit la justice. J'aimerais vraiment nous concentrer sur cet aspect de la justice parce que c'est tellement important de comprendre l'œuvre de Christ dans ce domaine. Alors en français, le mot prête à confusion et je pense que c'est utile parfois de consulter d'autres langues pour essayer de voir un peu plus la nuance de ce mot. Et en anglais, en fait, il y a trois mots qui sont différents mais qui pourraient être traduits justice en français. Et ça nous montre un peu ce qui est le piège dans la traduction, je pense, en français. On utilise le mot justice pour plein de choses différentes. Et il y a le mot fairness, qui signifie qu'on traite les gens de manière juste, équitable, égale. Ce n'est pas cela que Jésus est en train de dire, qu'il va accomplir la justice. Pas en tout cas ici. Il y a aussi le mot justice, qui signifie que Dieu traite les coupables avec justice et les punit. Mais ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire ici en Jésus-Christ, ce n'est pas ce genre de justice-là. Il ne vient pas pour rendre aux opprimés la justice ou pour condamner les coupables. C'est plutôt la troisième idée, righteousness, qui signifie la droiture, le comportement juste. C'est cela que Jésus a accompli. Si vous êtes néerlandophone, peut-être que ça peut vous aider aussi. On distingue « justitie » et « gerechtigheid ». D'accord ? Ici, ce n'est pas « justitie », c'est « gerechtigheid ». Dieu est en train de montrer sa droiture en Jésus-Christ. C'est très important à comprendre, d'accord ? Qu'est-ce que Jésus est venu faire ? Ce n'est pas faire la justice, comme justicier, le juge. Ça, ce sera pour sa deuxième venue. Mais il est venu accomplir la droiture, le comportement juste, le bon comportement. Notre obéissance, notre qualité morale, dit-il, doit dépasser celle des pharisiens, qui étaient pourtant des experts, des spécialistes de la loi. Eux étaient coupables, et ils remarquent qu'ils prêchaient, mais ils ne pratiquaient pas. Et donc, au verset 19, il est en train de dire, « Vous devez pas seulement enseigner aux autres, mais vous devez mettre en pratique ce que vous enseignez aux autres. » Et comme ça, on est grand dans le royaume. Mais ce qu'on voit d'abord, c'est que Jésus, avant d'enseigner aux autres, il enseigne une vie juste et droite, mais c'est une vie qui ne vient pas de nous-mêmes. C'est une vie qui vient de lui. Cette vie juste et droite qui dépasse celle des pharisiens ne peut pas être produite par nos efforts. Un exemple, c'est au début du chapitre 5, quand Jésus commence cette prédication et il lance des phrases que nous appelons les béatitudes. Ce ne sont pas des nouveaux commandements. Jésus n'est pas en train de dire « Soyez ceux qui pleurent, vous devez être doux ». Ce n'est pas une liste de commandements, c'est une liste de bénédictions. Ceux qui sont comme ceci, ils reçoivent des cadeaux. Par exemple, au verset 3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. On donne le royaume des cieux à ces gens-là. Ou au verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Justice. Et alors ça veut dire qu'ils n'ont pas cette justice en eux-mêmes. Qu'est-ce qui vient ? Il dit, on aura de la bonté. Ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. La justice leur vient comme un don. Plus tard, Jésus dira, ne cherchez pas la nourriture, la boisson, les vêtements, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu donne le royaume, il donne la justice, il donne le vêtement, il donne la nourriture. Vous voyez, tout ça est un don de la part de Dieu, par Jésus le roi. C'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. Juste deux autres références pour vous aider, c'est partout dans la Bible hein, ça, mais juste deux autres références. Romains 1, 17, l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Ou 1 Corinthiens 1, 30, Christ est devenu notre justice. Et un homme qui aurait été identifié avec les pharisiens, qui était un pharisien lui-même, il a ensuite rencontré Christ, il a dit ceci, « Je veux être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. » Philippiens 3, verset 9. Donc il y a cette droiture qui vient de Christ, mais n'est pas moindre que celle des plus ailées, les plus grandes. Et alors dans la suite, il va dire ce qu'il veut de nous. Et ce qu'il va dire, c'est « Vous avez appris qu'il a été dit », et il va citer l'Ancien Testament, et puis il va dire « Mais moi, je vous dis ». Et lorsque Jésus parle dans ce chapitre, vous pouvez lire ça à la maison, il va toujours plus fort, plus haut. Il élève la barre. Ce serait bizarre s'il disait « Bon, vous avez entendu que vous ne pouvez pas mentir, mais moi, je vous dis, vous pouvez mentir jusqu'à 3 fois par semaine. Wow. » On a baissé le niveau. Ou vous n'êtes pas obligé d'accomplir tous vos serments. Et il dit non, au contraire. Le commandement de Jésus dépasse tout ce qui venait auparavant. Et la loi va être cette justice intérieure que Dieu avait annoncée, inscrite sur notre cœur, tellement ça va être profondément acquis par nous, les chrétiens. La loi a été donnée à cause du problème du péché de l'homme, au cœur de l'homme. Et la conformité extérieure n'est pas ce que Dieu veut seulement, ce n'est pas suffisant. Il faut que nos cœurs, nos attitudes internes changent. Et donc je vais juste vous donner quelques exemples, on ne va pas le parcourir maintenant, mais juste quelques exemples dans la suite du message de Jésus. Le meurtre, interdit bien entendu, mais Jésus va pointer du doigt la colère, l'hostilité entre les frères. L'adultère, même le regard envieux ou un geste de la main nous rend coupables. Les serments, la vérité devrait rendre ça inutile d'ajouter le je te jure. Si on est vrai intérieurement et on dit la vérité, on devrait être cru. Et puis au lieu de œil pour œil, dent pour dent, Jésus dit la vengeance est interdite. Elle va être remplacée par l'attitude de générosité, de douceur vis-à-vis des autres. Même notre prochain, on va l'aimer, comme Dieu qui fait du bien aux méchants. Alors qu'est-ce que nous pouvons retirer comme enseignement pour nous à travers ce sujet? Bien entendu, on peut comprendre un peu plus ce que Jésus a fait, mais il y aura trois choses brièvement que je veux que nous retenions à partir de cet enseignement. Bien entendu, il est nécessaire de lire l'Ancien Testament et de le comprendre avec le filtre du Nouveau Testament, qui nous aide à comprendre que certaines choses sont renforcées dans certains enseignements, mais d'autres choses sont laissées de côté. Par exemple, il est inutile, plus nécessaire de passer par la circoncision, parce que Dieu opère une circoncision de notre cœur qui est plus importante, c'est à l'intérieur qu'il agit maintenant. Mais voici trois choses à retenir. D'abord, soyons désespérés de nos propres efforts. Nous n'arrivons pas, et nous n'arriverons pas, à accomplir la loi. Même extérieurement, nous n'arrivons pas à obéir à la loi de Dieu. Par les œuvres de la loi, dit la Bible, personne ne sera considéré comme juste. Alors mettez-vous un instant dans la peau de quelqu'un qui veut bien faire avant la venue de Jésus et qui connaît la loi de Dieu. Eh bien, il veut faire le bien et il doit pratiquer le bien dans plein de domaines. C'est un très lourd fardeau d'efforts qui pèse sur vous. Il faut obéir, il faut faire mieux. Il faut surmonter ces tendances vers le mal, c'est très difficile. Et puis, si vous regardez aux exigences de Jésus, et que vous êtes de tendance légaliste, vous dites, mais c'est encore plus fort, c'est encore plus d'efforts que je dois pourvoir pour plaire à Dieu. Et c'est inatteignable. Vous savez, des milliers de gens sont arrivés au sommet du mont Everest. Mais il n'y a qu'une personne qui est arrivée à accomplir la loi de Dieu parfaitement. Vous vous rendez compte de cela? Ça veut dire que c'est plus facile d'aller au Tibet, d'aller aux Himalayas, de monter jusqu'au sommet du mont Everest que d'accomplir la volonté de Dieu pleinement. Par nos propres efforts, nous ne pouvons pas nous mettre à la hauteur de Dieu. Nous n'allons pas y arriver. Nous n'aurons pas le statut de juste, mais seulement le statut de pécheur et de coupable. Deuxièmement, soyons soulagés par la venue de Christ. Soyons soulagés par la venue de Christ. Quand je vois un de mes fils avec un énorme cartable, je lui dis, laisse-moi porter ça, c'est trop lourd pour toi. Et au cœur de l'Évangile, il y a quelque chose de semblable. Et quand on veut bien faire, c'est quand même trop lourd pour nous. Et on n'y arrive pas. Mais ce n'est pas trop lourd pour lui. Et donc Dieu est en quelque sorte en train de nous dire, laisse-moi porter ça. Laisse-moi porter ça, c'est trop lourd pour toi. Jésus vient au secours de ceux qui sont injustes, mais il vient aussi au secours de ceux qui veulent être justes, et on n'y arrive pas. Il ne vient pas annoncer un relâchement en disant « c'est pas grave, faites ce que vous voulez, Dieu ne s'intéresse plus à la justice ». Mais il vient pour que Dieu puisse être satisfait en nous, parce qu'il voit que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. C'est très simple l'Évangile. On ne s'en sort pas sans lui. Mais je sais que le grand obstacle, c'est notre orgueil. On veut qu'on puisse dire, en fait, moi, je m'en suis sorti, je fais ceci, j'ai fait cela, je suis quelqu'un de bien, je suis capable. Mais relisons à nouveau le verset 3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Vous voulez être pur, vous voulez être juste. Vous voulez être pardonné. Ben quel soulagement Jésus arrive, il a 100% dans tous les bulletins, et il vous passe ses bonnes notes. Il lui donne ses bons points. Alors si tu te sens coupable pour tes péchés aujourd'hui, dépose ta culpabilité sur Christ le juste et prends sur toi la justice que Dieu veut t'accorder, qui est une justice extraordinaire et parfaite du Fils obéissant. Et troisièmement, dernière chose, toute dernière chose, restez concentrés jusqu'au bout. Soyons motivés par celui que nous connaissons. La loi est bonne, Jésus ne l'a pas abolie, les exigences de Jésus sont plus fortes que celles de l'Ancien Testament, on l'a déjà vu, et nous ne serons pas sauvés par notre obéissance au commandement. Et donc pourquoi est-ce que nous devons faire ce que Dieu nous demande? Il y a beaucoup de raisons, mais je vais juste isoler une de ces raisons. La principale, il faut faire la volonté de Jésus à cause de la personne qui le demande, qui nous demande de le faire. Et là, on comprend que le « mais moi, je vous dis », ça relie tout à Christ. Notre préoccupation n'est pas qu'est-ce que Moïse a dit, ou qu'est-ce que l'apôtre a dit, ou qu'est-ce que le pasteur a dit, mais qu'est-ce que Jésus a dit, parce que toute ma vie en tant que chrétien est centrée sur lui. Et j'essaie de chercher un exemple pour cela, une illustration de cela. Je ne pense pas que j'ai trouvé vraiment autre chose qui est pareil, mais quand on aime quelqu'un, un ami, un mari, une épouse, on veut faire des efforts pour lui, n'est-ce pas? Quand on est jeune, on obéit à notre père parce qu'il faut bien, c'est notre père, il nous dit de le faire. Mais plus tard, on agit pour faire ce que notre père veut parce qu'on veut lui faire plaisir. C'est lui qui nous demande et on l'aime. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer. C'est Jésus qui nous demande. Et quand il envoie les disciples à la fin de l'évangile de Matthieu, il veut que le monde entier devienne chrétien. Qu'est-ce qu'il leur dit? Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Tout est centré sur ce que Jésus veut, ce que Jésus dit. C'est lui qui nous demande. Jésus devient notre préoccupation suprême. Pas pour être sauvé, mais parce qu'il nous sauve, nous obéissons à Jésus. Il est notre maître. Maintenant, c'est le chef de ma vie. Nous ne pouvons pas prétendre être chrétien et vivre comme nous le sentons, comme si nous n'acceptons pas de suivre Jésus. Ça ne marche pas. Je ne peux pas dire « je veux être sauvé, mais ne me dis pas ce que je dois faire ». Alors, il se peut que tu sois passé par une perte de motivation. Peut-être que ta motivation n'est pas ce qu'elle devrait être. Tu reconnais que tu as une motivation légaliste, où tu as été motivé par ton orgueil en disant « je vais montrer que je suis la meilleure que les autres ». Mais nos motivations, même si elles sont mélangées, elles doivent être réformées. Ce qu'il faudrait, ce qui peut vraiment booster ta foi et ta motivation, c'est quoi? C'est de se dire que nous avons en Jésus la personne la plus aimable, le sauveur parfait, le chef le plus doux, le Dieu le plus puissant et l'ami le plus bienveillant. Qui te demande de faire ceci, de faire cela, d'accomplir la vie juste que Dieu te donne? C'est lui qui demande. C'est Jésus qui demande. Alors, suivons-le. Prions. Oui, Seigneur, en tant que disciples, nous voulons être à l'écoute de notre Maître. Nous voulons d'abord reconnaître le grand écart, la grande différence qui existe entre nous et Jésus. Sa perfection, son obéissance nous éblouissent. Merci qu'il accomplit la loi et les prophètes. Mais nous voulons aussi, Seigneur, marcher dans cette justice qu'il nous a accordée, la vie que tu nous demandes de vivre. Permets que nous puissions être prêts à être conduits par toi, par ta volonté, comme nous l'avons déjà chanté ce matin. Donne-nous, Seigneur, cette motivation et ce plaisir aussi, parce que tu ne demandes jamais de faire quelque chose de mauvais pour nous. Tu es bon, et ta loi est bonne, juste et parfaite. Tout cela, nous te prions afin que nous puissions honorer Jésus, celui qui s'est donné à la croix pour nous, afin que nous puissions être justes pour toi éternellement.